Pas de pays sans paysan.
On danse par Pagnas. On danse le.
Chaque année, le 17 avril 2012, la Confédération paysanne appelle à une mobilisation nationale pour lutter contre l'artificialisation des terres. Les études de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, témoignent de la réalité de la disparition de terres agricoles sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Dans le département des Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau, 7e commune française de par son étendue avec sa zone périurbaine, la plaine de la Crau, est un objectif immobilier pour la construction et l'extension de zones habitables et commerciales au détriment des terres agricoles. Une action citoyenne pilotée par la Confédération paysanne tente d'enrayer l'objectif.
Alors ici on est à l'INSEE à Marseille, on est dans les bureaux de madame
Roux, directrice régionale adjointe de l'INSEE en Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Alors ici, on a une analyse datant d'avril 2011 sur les terres agricoles face à la pression de l'urbanisation.
Alors là, c'est une étude qu'on a réalisée avec la DRAF, donc la Direction régionale de l'agriculture. Après, on a utilisé le recensement de la population et puis le recensement agricole aussi. C'est un recensement qui est fait par le ministère de l'Agriculture auprès des agriculteurs et qui recense donc toutes les propriétés agricoles, leur taille, l'usage des sols, le type de culture. C'est un recensement pour l'agriculture qui est fait régulièrement et où on s'est intéressé effectivement aux communes de la région qui étaient des communes soit périurbaines, soit rurales, c'est-à-dire des communes où la densité de population est encore faible et où il y a encore beaucoup d'espaces naturels et agricoles qui sont susceptibles de disparaître avec la croissance forte de la population régionale. Et à partir de cette analyse, on a pu identifier trois groupes de communes qu'on a qualifiées de groupes à enjeux. Les enjeux sont différents. Le premier groupe, ce sont des communes qui sont en bordure des communes urbaines sur l'arrière littoral, aussi bien dans le Var que dans les Alpes-Maritimes. Et ce sont des communes où la population augmente le plus rapidement. Le nombre de logements augmente également très fortement. Et où, lorsqu'une terre agricole est vendue, elle perd très souvent, à savoir dans la moitié des cas, sa vocation agricole. Ce sont des endroits où les prix des terrains vendus sont les plus chers et où donc, effectivement, on voit bien que la pression est très forte. Ensuite, on a identifié un deuxième groupe qui, lui, est plus centré autour de l'agglomération avignonnaise. Donc là, la population croît moins vite que dans le premier groupe. Et pourtant, le nombre de logements, lui, croît très vite. Et il y a beaucoup de locaux commerciaux aussi. On a plus de constructions que dans le premier groupe. Alors, même que la population augmente moins, c'est parce qu'effectivement, il y a des constructions de résidences secondaires. C'est parce qu'il y a plus de phénomènes de décohabitation. Les gens sont moins nombreux dans leur logement. La taille des ménages, donc le nombre de personnes dans chaque logement, diminue peut-être plus vite qu'ailleurs. Du coup, on construit beaucoup dans cette zone. Et donc, on l'a qualifiée d'une zone qui est sous pression de la construction dans un espace agricole, parce que dans cet espace-là, on a encore la moitié de l'espace qui est occupé par l'agriculture. Et donc, on retrouve Saint-Martin-de-Crau dans ce groupe-là.
Une partie de la population de Saint-Martin-de-Crau et les communes limitrophes demandent que le projet de plan local d'urbanisme qui va être voté le 5 juillet, pendant que nous serons en congé, comme les mauvaises lois à l'Assemblée nationale, on demande à ce que ce projet de plan local d'urbanisme soit abandonné.
Là, ici, on est à Saint-Parpaing-de-Crau, nouvellement effectivement défini compte tenu du plan d'urbanisation projeté par la mairie dans le cadre d'un plan local d'urbanisation, ce qu'on appelle maintenant en l'occurrence Saint-Plu, pour la disparition, du moins ça engage la disparition de 65 hectares.
Donc, Philippe Chancigaud, porte-parole de la Confédération Paysanne 13.
D'accord. C'est toujours pareil, hein, à l'initial, ce sont toujours des terres agricoles qui effectivement sont retirées de la production pour servir effectivement le développement de l'habitat ou de l'industrie. Et nous avions déjà attaqué l'année dernière un projet dont je vous parlais sur Tarascon de 35 hectares. Le préfet d'ailleurs a remis en cause effectivement ce projet de la communauté d'agglo et ça a été annulé. La décision effectivement prise par le maire de Tarascon et par la communauté d'agglomération a été annulée. Ces 35 hectares retomberont, et nous le souhaitons, dans la escarcelle de la production agricole.
D'accord, là on parle de 65 hectares, c'est autour de Saint-Martin-de-Crau, mais en région PACA, ça représente quelle surface?
Aujourd'hui,
vous avez des chiffres, quoi.
On va être beaucoup plus rapide. Les deux tiers des Bouches-du-Rhône sont dédiés à l'urbanisation. Les deux tiers. Donc le seul espace important lié à l'agriculture, c'est très exactement le pays d'Arles, dont fait partie Saint-Martin-de-Crau.
Dans le département des Bouches-du-Rhône, Chaque année, nous avons donc 1700 hectares qui disparaissent. À l'échelle nationale, nous avons 82 000 hectares qui disparaissent, l'équivalent d'un département français entier tous les 8 ans.
Mais toi, tu avais des chiffres sur les transformations des terres agricoles en terres urbanisables.
Moi, c'est Jean-Christophe Robert de l'association Filière Paysanne pour la souveraineté alimentaire locale. Donc en fait, les chiffres que je présentais tout à l'heure, tu as déjà les chiffres locaux. Sur le département, on va dire, sur le département des Bouches-du-Rhône, tu as chaque année 1700 hectares qui disparaissent, 1700 hectares de terres agricoles. Donc ça veut dire que ça, c'est uniquement les terres qui sont comptabilisées par les organismes agricoles en tant que surface agricole utile, mais il y a des terres qui sont cultivables, qui ont été déclassées, qui ne sont plus donc déclarées comme agricoles et qui disparaissent aussi, qui sont urbanisées. Donc 1700 hectares par an, c'est simplement les terres classées comme agricoles, sachant que tu en as plein d'autres qui pourraient être cultivables aussi, enfin qui le sont peut-être même encore, et qui disparaissent aussi. Donc il faut largement majorer ces 1700 hectares.
Et alors, à qu'est-ce qu'elles deviennent ces terres-là ?
C'est essentiellement pour de la construction de zones commerciales, artisanales, de zones d'habitation, d'équipements collectifs, et d'infrastructures telles que des routes, des ronds-points et compagnie.
D'accord. Et alors si chaque année il y a autant de surfaces qui disparaissent, au bout d'un moment il n'y aura plus de terres agricoles en région.
Donc là il y a un calcul qui a été fait sur les Bouches-du-Rhône, il y a à peu près, selon les estimations, entre 10 et 50 ans avant la disparition totale de l'agriculture dans notre département. Sachant que c'est beaucoup plus aigu sur le littoral. Plus tu t'approches de la mer, plus la pression immobilière est forte. Donc c'est pas totalement homogène sur l'ensemble du territoire, mais du territoire départemental. Mais voilà, la tendance est entre 10 et 50 ans à peu près avant que l'agriculture ne disparaisse sur nos départements. Si on prend des départements encore plus sujets à la pression immobilière comme les Alpes-Maritimes par exemple, là il y en a pour moins d'une dizaine d'années.
Si effectivement on arrive à bloquer ce PLU en l'état, ça veut dire que la mairie devra reproposer un autre PLU dans lequel il sera obligé de prendre en compte la demande de la préservation des terres fertiles.
C'est-à-dire l'installation de nouveaux agriculteurs, de jeunes agriculteurs ?
Ça va permettre effectivement de pouvoir proposer du foncier à des nouveaux agriculteurs, sachant que donc les personnes qui partent à la retraite, qui souhaitent vendre, qui bien souvent ont la possibilité de vendre en terre, à bâtir, donc beaucoup plus cher forcément du fait de l'appât du gain, ce qui est humain, hein, ça peut se comprendre aussi, vont préférer effectivement le vendre pour pouvoir arrondir leur retraite.
Alors des fruits aux hormones, ils ont qu'à aller voir en Espagne.
C'est un producteur dans la Drôme, qui fait l'élevage de lapin en cage. Une cage, hein, je ne vous mens pas, hein. Comme ça, vous avez trois lapins dedans.
Plus cher. Les pauvres gens, ils mangent
ça. Si vous oubliez de leur donner à manger le matin bonheur, il y en a un de mort, ils se bouffent entre eux.
Moi, j'ai le grand-père de mon genre, des lapins, c'est individuel.
Voilà.
Mais vous voir ces lapins comme ils sont beaux, ça nous fait même peine de les manger. Ils sont tellement beaux.
Comme on dit, il en faut pour tout le monde, c'est des lapins d'industrie. C'est nourri au totalement, au bout de tant de jours, on les balance dedans.
Alors, c'est pas pour rien qu'on a tous ces maladies.
On les balance à Auchan, comme on dit, dans les grandes surfaces, c'est du lapin pas cher.
Ouais, après, on est malade.
Les poulets.
On est malade, monsieur.
Les poulets, pour que les œufs industriels qu'on appelle, pour que ce soit rentable, les poules, on leur met la lumière. Vous savez qu'une poule, quand il y a la lumière, on ne dort pas. Ou très peu.
Plus cher. Et puis elle pose sur les poules mortes.
Elle pose sur les poules et ça fond. Et ces poules, une fois que elles sont vieilles, on les met en rayon et on les vend en poulet. Oui. Alors, c'est vrai que vous avez des poulets à 3 euros, 2 euros le poulet. Qu'ailleurs, ça vaut 20 ou 15 euros.
C'est pour ça que.
C'est des poulets.
Ouais, vendez l'année pour la semaine prochaine, 1,5 kg.
C'est Isabelle Mathieu, mère de famille, consommatrice à la MAP de Bonneveine. Et je rejoins le conseil d'administration Collège AMAP. Donc, je représente la MAP de Bonneveine à Alliance Provence. Une AMAP, c'est un groupe de consommateurs qui va établir un lien privilégié avec un agriculteur dans l'idée de maintenir l'exploitation. Comment il va aider l'agriculteur à maintenir l'exploitation ? C'est en lui achetant à l'avance tout ou partie de sa production. En échange, les consommateurs ont une livraison régulière des produits normalement bio, sans engrais ni pesticides de synthèse, aussi des produits donc locaux et de saison. on entre dans ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. On change de fonctionnement économique, on sort d'une logique commerciale et on a une démarche qui est solidaire avec l'agriculteur et on en paie le prix, effectivement, on paie le prix du panier à l'avance.
D'abord, je vais vous donner ça.
Parce qu'on vient d'arriver aussi à Toulon, donc on connaît.
D'accord. Alors, normalement, le bureau administratif est sur Toulon, c'est déjà une bonne piste. Ici, vous avez un site à consulter. Vous avez les adresses d'AMAP. Parce que... Après, comme les AMAP, ce sont des associations de consommateurs...
Je connais parce qu'on vient de Lorraine et on en faisait partie.
D'accord. C'est sur Toulon. C'est extraordinaire parce que je vois tout, sauf Toulon. Mais il y a aussi le fait que... Prenez ça, vous pouvez prendre ça. Que s'il y a un groupe de consommateurs suffisant, on met en contact et on aide à la création d'AMAP. Donc là, Alliance Provence, qui est le réseau des AMAP en Provence-Alpes-Côte d'Azur, peut mettre en contact un groupe de consommateurs avec un agriculteur ou aider un agriculteur à trouver un groupe de consommateurs. L'originalité d'Alliance, c'est l'interface entre les consommateurs et les producteurs.
Et sur la ville de Marseille, est-ce que le réseau est encore en développement? Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de points à développer?
Le réseau est en développement. Notre AMAP a une liste d'attente de 2 ans. Notre agriculteur ne veut pas fournir plus de paniers qu'il ne peut en produire. Et comme il n'y a pas beaucoup de consommateurs qui en partent, donc les places sont très chères. C'est difficile de trouver des producteurs dans la ceinture proche de Marseille. Nous, on a un énorme problème pour trouver suffisamment de producteurs en fruits. Le maraîchage, spécialement le maraîchage, c'est-à-dire la production de légumes, est une pratique qui a pu se perdre dans le sens d'une production variée, diversifiée de légumes et bio. On a eu de plus en plus dans la région, qui est quand même une grosse région agricole, de plus en plus d'agriculteurs qui sont allés vers la monoculture ou des cultures limitées en nombre, des tomates, des courgettes, des aubergines, et avec une production intensive avec des engrais. Le panier demande 4 à 5 variétés au moins chaque semaine. Et ben, il faut produire de manière diversifiée. Donc, ce sont des pratiques qui peuvent être perdues. Et donc, on avait pas mal d'agriculteurs vieillissants qui ne désiraient pas faire cet effort-là. Et puis, à l'inverse, on avait de jeunes agriculteurs qui étaient prêts à s'installer, mais on est dans une région où le foncier est trop cher.
D'être constamment le nez dans la production, ça ne nous paraît pas être forcément quelque chose d'enviable. Et c'est un peu le modèle de l'agriculture à l'ancienne des années 70-80 où il fallait produire. Moi, j'ai une formation d'ingénieur agricole. Je suis en phase de reprise de ferme en maraîchage biologique en montagne à 1000 mètres d'altitude dans les Alpes-Maritimes. Voilà, sur une ferme déjà existante avec des gens qui l'amènent depuis 30 ans en bio et qui cherchent à transmettre. Donc il n'y a pas que les agriculteurs qui cherchent à spéculer, à vendre le foncier au plus offrant. Il y a aussi certains qui ont envie de transmettre leur outil parce qu'ils sont investis dedans pour le mettre en place pendant 30 ans. Dans le 06, la moyenne d'âge des chefs d'exploitants, alors il n'y en a plus beaucoup, plus que 700, mais ils ont 58 ans de moyenne d'âge. Donc effectivement, voilà, il y en a beaucoup qui sont à la retraite et tous, heureusement, ne sont pas concernés par le phénomène de spéculation et n'ont pas envie de rentrer dedans.
Tu essayes de reprendre en fait une exploitation lorsque c'est difficile la transmission?
Moi j'ai la chance de le vivre très sereinement parce que j'ai affaire à des exploitants qui ont vraiment envie que ça se fasse bien et qui me laissent le temps et qui ne mettent aucune pression par rapport à la reprise de leur ferme. Ils ont prévu un logement pour celui qui reprendrait, ils ont déjà réfléchi au montage juridique administratif de la reprise. Ça, c'est tout le travail qui a été quand même fait par eux en amont avec l'appui de la Confédération paysanne et différents organismes de conseil. La Chambre d'agriculture a aussi sa part. Globalement, si les gens ont la volonté de le faire, c'est pas traumatisant du tout et au contraire, c'est même très très stimulant. Là, on rentre dans un rôle un peu de tuteur. Ce qu'on défend au sein de la Confédération paysanne, c'est aussi la mise en lien des anciens, entre guillemets, avec les jeunes, pour que tout ce qui est savoir-faire et pratique qu'ils ont pu acquérir tout au long de leur expérience, et ben, que ça soit transmis. Quoi. Ouais. Alors moi, j'y étais tout cet été, là, au mois de juillet et au mois d'août, donc j'ai travaillé 2 mois non-stop en habitant sur place, chez eux, pour être vraiment avec eux et pouvoir en discuter le soir, le midi, manger ensemble. Non, je sais que je redémarre là-bas en avril parce que l'hiver, à 1000 mètres d'altitude, on ne cultive rien. Hein. Il y a la neige qui est là 3-4 mois. Moi, je suis en train de préparer toutes les démarches pour, en avril, être sur place et faire une saison complète, c'est-à-dire de avril à octobre. Et à la fin de l'année prochaine, on décidera si je pars sur une vraie installation, entre guillemets, c'est-à-dire une installation à titre d'agriculteur. Quoi. Pour le moment, je serai à titre de ce qu'on appelle cotisant solidaire. Je suis déclaré comme exploitant, mais je n'ai pas toutes les charges qu'a un exploitant parce que je suis en phase de démarrage.
On est bien d'accord, là tu as un bon mélange. Tu vas donc mettre un peu de terre autour. On va laisser un petit trou pour pouvoir planter tout ça. Et après, tu vas tasser ta terre.
Ben là, il y a un peu de terreau. Et là, il y a une terre de jardin, mais tu vois, très claire, très argileuse, très coulante.
Oh, j'ai trouvé.
Qui manque de matière organique. En gros, le noir, souvent, c'est la matière organique. Donc ça manque de végétaux. Et ça, c'est le terreau, ça manque de limon, d'argile, de liant pour bien tenir sur les racines. Donc on mélange plusieurs terres pour avoir une terre idéale.
Dans la terre, j'ai vu ça.
Un certain temps, l'idée a été de dire l'accès à la denrée alimentaire sera en l'occurrence bien encadré, ce qui permettra à l'agriculteur d'avoir effectivement un revenu, mais par ailleurs minimisant ses cotisations. Ça a fait long feu, hein, ça a duré quand même pendant toute la période de la Révolution verte et pendant la période des Trente Glorieuses. On s'est retrouvé effectivement avec des paysans qui n'avaient pas constitué de retraite et qui donc se sont engagés dans la voie simple de la spéculation foncière. Et pour eux, le revenu de la retraite, c'était la vente de terres agricoles. Donc ils sont devenus effectivement des promoteurs immobiliers. Tout a un coût et le travail du paysan a un coût. Et il faut le rémunérer correctement. Ça évitera qu'une partie de notre profession soit tentée effectivement par les sirènes de la spéculation.
On se rattrape sur la vente de la terre. Donc ça veut dire qu'on est dans une politique de court terme, c'est la terre brûlée.
Alors il n'y a pas une possibilité de gel des terres agricoles, c'est-à-dire qu'une terre agricole reste une terre agricole.
Depuis les années 60, il y a eu la création des SAFER, c'est-à-dire les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui, à la demande donc des jeunes agriculteurs de l'époque, permet de pouvoir faire préemption sur la vente des terres agricoles pour que ces terres agricoles restent dans une vocation agricole et ne soient pas vendues pour de l'urbanisation, pour de la construction immobilière et de la spéculation foncière.
Michel Apostolo, de la Confédération Paysanne, PACA. La vraie question, ça serait de geler les terres agricoles, qu'elles ne puissent plus être urbanisées ou artificialisées. Aujourd'hui, il y a une loi de modernisation agricole qui a un volet foncier. Il était dit dans ce projet de loi de modernisation agricole qu'il y a entre 60 000 et 70 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent de l'agriculture par an. Ce qui était annoncé dans ce projet, c'était de diminuer de moitié. Cet objectif chiffré a été finalement abandonné. On a des difficultés à avoir des politiques foncières fortes. Geler ces terres-là, faire en sorte qu'il y ait un marché qui soit un marché foncier agricole, qui soit limité à l'agriculture et qui soit fonction de la valeur de production des terres. Alors que là, il est fonction de la valeur urbanisable de ces terres-là. À partir du moment où on arriverait à geler ces terres-là pour 30 ans, elles restent destinées à l'agriculture, ça changerait quand même pas mal de choses.
Il n'y a pas de loi qui effectivement encadre les PLU par rapport à la question de la préservation, on va dire, de la sanctuarisation des terres agricoles. Et donc ce n'est que par une mobilisation citoyenne qu'actuellement on arrive localement à lutter contre des projets d'artificialisation massive. Moi j'ai très très bon espoir qu'effectivement...
C'est la solution quand même là, pour résoudre ce problème, pour préserver les terres, c'est quand même de légiférer.
C'est la seule solution.
solutions durables qui soient, on va dire, à la taille de l'enjeu et de la problématique face à laquelle on est confronté. Ouais.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Pas de pays sans paysans.
On danse, on danse, on danse par Pagnas. On danse, on danse, on danse le par Pagnas.